Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier et le journal d'Agnès Bonfillon.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité de ce 10 novembre 2019, direction l'Australie immédiatement. Nos nerfs sont mis à rude épreuve ce matin avec la deuxième journée de la finale de la Fed Cup.
Ah bah Isabelle Langer, vous nous disiez que vous étiez en PLS tout à l'heure, on espère que ça va mieux. Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Après le deuxième point emporté par Kristina Mladenovic pour la France, on espère que Pauline Parmentier va conclure et qu'on va pouvoir déboucher le champagne.
Bah, il faudra encore attendre un petit peu, hein, puisqu'elle a perdu la première manche 6-4 au profit de Alia Tomljanovic. 46 minutes de jeu. L'Australienne mène 1-0 dans le deuxième set. Pauline Parmentier est au service. 122e au classement. C'est le coup de poker, hein, de Julien Beneteau qui l'a préféré à Caroline Garcia pour disputer ce simple. Mais c'est peut-être bien joué de la part du capitaine parce qu'après la raclée qu'elle s'était prise hier par Ashleigh Barty 6-0, 6-0, Caroline Garcia n'avait peut-être pas deux matchs dans les jambes aujourd'hui. Savoir disputer ce simple qu'elle aurait peut-être pu perdre face à Alia Tomljanovic et derrière enchaîner avec le double. Il a préféré la réserver. Il a peut-être bien fait parce que s'il y a un double décisif, eh bien il pourra aligner son duo magique Mladenovic-Garcia face aux Australiennes Barty Stosur. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Isabelle. On est rassuré hein, que vous ne soyez pas en position latérale de sécurité en PLS, en direct de Perth en Australie pour RTL.
Hier en Bretagne, Agnès, c'est un véritable miracle. Aucune personne n'a été blessée par une tornade.
Ouais, une tornade à Breck. Les habitants de cette commune du Morbihan ont bien cru que le ciel leur tombait sur la tête, comme dans Astérix. Heureusement, vous le disiez, pas de blessés, mais une grosse frayeur et surtout, surtout, Nicolas Bobby, de très gros dégâts.
La tornade a été extrêmement brutale, rapide et d'une violence inouïe.
Eh ben, un grand vacarme, une pluie drue, des grosses gouttes, du bruit. J'ai cru que tout allait exploser. Et puis, on a vu l'échafaudage qu'on avait devant la maison bouger, l'échelle valser et l'échafaudage tomber à moitié.
Arraché, broyé, des arbres se sont envolés. Une quinzaine de maisons a subi des dégâts.
Donc, j'ai baissé mes volets côté salle à manger parce que j'ai vu les arbres tellement bouger que j'ai eu peur que les arbres tombent sur les vitres. Je suis sortie, puis c'est là que j'ai vu le toit. Et puis, le toit était envolé.
Il n'y a plus du tout aucune ardoise. Le toit est à nu, n'importe comment, puisqu'on voit le grenier, on voit les chambres et tout ça. Les traverses de véranda en aluminium qui font 4 mètres de long, ils ont traversé carrément la route sans arriver à la mairie annexe.
Le maire de Breck, Fabrice Reblay, n'avait jamais vu ça.
Un banc qui agrémente le jardin d'une tonne s'est envolé et retombé 1 mètre plus loin. Et puis les pierres du talus qu'on a retrouvées 50 mètres plus loin.
Il n'y a eu aucun blessé et cela relève du miracle.
Effectivement. Le reportage de Nicolas Bobby à Breck, en Bretagne, pour RTL.
Agnès, concernant le service national universel, le gouvernement veut passer à la vitesse supérieure.
Effectivement, il veut aller beaucoup plus vite cette année. 2000 jeunes ont expérimenté le SNU sur la base du volontariat, on le rappelle. Eh bien, il devrait être 30 000 l'année prochaine, Marie Guerrier. Tout est fait pour, en tout cas.
13 départements expérimentaient le dispositif cette année. L'an prochain, tous les départements seront concernés. Les capacités d'hébergement sont en cours de recensement. Internat, centre de vacances, bâtiment de l'armée. Il faudra pouvoir accueillir les 30 000 nouveaux volontaires, 2 semaines pour la phase dite de cohésion. Il y a eu quelques abandons en juin dernier et 5 exclusions. Certains ateliers ont été jugés trop théoriques par les jeunes. Il faudra utiliser des méthodes pédagogiques plus actives. Pas question de toucher rituel de la Marseillaise et du lever de drapeau le matin, mais il faudra s'assurer que tout le monde a bien pris un petit déjeuner avant pour éviter les quelques malaises observés, surtout en période de forte chaleur. Cette phase de cohésion en hébergement collectif est suivie d'une mission d'intérêt général, 2 semaines passées auprès d'associations, possibilité aussi de faire une préparation militaire ou en gendarmerie. 400 jeunes ont fait d'ailleurs ce choix cette année. Le SNU 2019 a coûté entre 1400 et 2300 euros par jeune en fonction des départements. Les préfectures vont chercher maintenant à réduire les coûts pour se rapprocher de la fourchette basse. 30 millions d'euros sont prévus au budget 2020.
Les précisions de Marie Guerrier pour RTL. Et sachez qu'M6 a eu en exclusivité l'occasion de tourner en immersion la première édition du SNU en juin dernier. Le président de la République, Emmanuel Macron, a d'ailleurs reçu les journalistes de la chaîne à l'Élysée. Diffusion à ne pas rater ce soir dans Zone Interdite. Mardi, les syndicats étudiants appellent à manifester à Lyon. C'est là, vendredi, devant le Crous de la ville, qu'un jeune homme de 22 ans s'est immolé en plein un jour. Son état est extrêmement critique. Il est brûlé à 90%. Avant de commettre ce geste désespéré, il a laissé un message pour dénoncer, entre autres, la précarisation étudiante, une situation dans laquelle il se trouvait. La gauche très divisée sur sa participation ou non à la marche contre l'islamophobie cet après-midi à Paris. Un grand nombre d'élus ne veulent pas être associés à certains organisateurs à la réputation plutôt sulfureuse. En cause également la dénonciation, je cite, de lois liberticides. Le cortège partira à 13h de la gare du Nord.
Restez bien avec nous, la suite de RTL Matin Week-end. Dans un instant, vous allez entendre Richard Berry, le comédien. Il s'exprime sur les nouvelles accusations portées contre Roman Polanski.
RTL Matin.
On attend.
Il est 8h07, RTL Matin avec Stéphane Carpentier et la suite du journal d'Agnès Bonfillon.
Et un témoignage qui risque de choquer, celui de Richard Berry, invité de RTL hier. L'acteur a donné son sentiment sur les nouvelles accusations contre Roman Polanski.
Vous savez, on en a parlé hier, une photographe française affirme que le cinéaste l'a violée il y a 44 ans. Ce n'est pas la première fois que le réalisateur est visé par des accusations. Richard Berry était l'invité de Vincent Parisot dans le journal Inattendu hier et on sent le malaise. La difficulté pour lui d'adopter une position tranchée. Écoutez.
J'ai beaucoup de compassion pour toutes les femmes qui ont subi ces agressions sexuelles, en particulier évidemment récemment pour celle dont vient de parler Adèle Haenel. Et je comprends très bien ce que peut avoir vécu cette femme, Valérie Monnier. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à cet homme qui a bientôt 90 ans, qui vit cette punition depuis des années.
Parce qu'il y a eu d'autres affaires.
Pas de viol, mais d'abus sexuels. Et je me dis que ça doit être terrible à vivre, et terrible à vivre aussi pour ses enfants. Donc là, j'ai de la compassion pour tout le monde, si vous voulez. Voilà. Je peux pas accepter, évidemment, qu'on puisse abuser comme ça, impunément, d'une femme. Et comme ça m'a bouleversé l'histoire d'Adèle Haenel. La façon dont elle le raconte, avec cette intelligence, cette clairvoyance, ce courage dont elle a fait preuve au moment où elle l'a fait avec Mediapart. Et en même temps, en ce qui concerne Roman, j'ai envie qu'on le laisse tranquille, quoi, un petit peu.
J'ai envie qu'on le laisse tranquille, dit Richard Berry, qui était l'invité de Vincent Parisot sur RTL hier. Une première école primaire au nom de Jacques Chirac. C'est un établissement de Viviers-les-Laveurs dans le Tarn qui portera le nom de l'ancien président de la République, décédé, je vous le rappelle, le 26 septembre dernier.
Et puis Agnès, les jouets Made in France ont la cote.
Oui, écoutez bien, leur progression est 6 fois plus rapide que celle du marché du jouet en général. Alors pourquoi ce retour aux marques françaises, cet attachement? On imagine que la qualité n'y est pas pour rien, Sophie Orange, mais il n'y a pas que ça.
Eh bien déjà parce que le marché du jouet n'échappe pas à la tendance générale. Explication apportée par Alain Ingberg, le président de l'association qui regroupe une cinquantaine de fabricants et créateurs français.
Comme le bio rentre dans les mentalités, comme tout ce qui est plus petite distance, plus proche de chez vous, les gens commencent à réfléchir quand ils font leurs achats et ils se disent pratiquement au même prix, vaut mieux encore acheter français.
Premier argument des consommateurs, la qualité, la résistance du jouet français, mais aussi l'innovation, notamment dans les loisirs créatifs. Lorsqu'Agnès Bechet a relancé Mako Moulage il y a 5 ans, elle a choisi des sous-traitants dans l'Allier, la Dordogne ou le Vaucluse. Le Made in France a un avantage logistique essentiel par rapport à la Chine.
Livrer très très vite les consommateurs. Si jamais il y a un produit qui sort, qui plaît plus, de pouvoir relancer une production et être très réactif sur la livraison et pas les 3 mois de la Chine.
Le succès du Made in France se confirme chez Jouet Club, 300 magasins. Jacques Baudoz, le patron, voit loin.
Il y a 10 ans, on était à 5%, 10%. On va essayer de faire monter au-delà de 35, 40%, ce qui serait l'idéal.
Mais pour répondre à cette nouvelle demande des consommateurs, il faudrait encore plus de fabricants et plus d'innovations dans l'Hexagone.
Sophie Orange pour RTL.
On parlera du Made in France justement tout à l'heure. Il y a salon en ce moment à Paris. C'est David Soulard, le PDG des meubles Gauthier, des meubles 100% Made in France qui sera notre invité tout à l'heure sur RTL juste à 9h-10. Le foot, le choc de la 13e journée de Ligue 1, c'est ce soir entre Marseille et Lyon.
Et on ne parle donc pas de classico, mais d'Olympico, Stéphane. Au-delà de l'enjeu sportif, si les Marseillais gagnent, ils peuvent reléguer l'OL à 6 longueurs derrière. Les supporters auront surtout les yeux braqués sur un entraîneur qu'ils connaissent très bien, un certain Rudy Garcia qui a quitté l'OM en fin de saison dernière et qui officie désormais à Lyon. Ça, pour certains joueurs, c'est difficilement compréhensible. Écoutez Dimitri Payet.
Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Surtout après, voilà, il y a quelques mois, on recevait Lyon. Et au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il postule 3 mois après pour ce club-là. Mais bon, après, Mais on va dire que j'aimerais pas qu'ils parlent de nous comme ça. Et c'est vrai que voilà, nos rapports se sont détériorés et voilà, je l'oublie pas non plus. Donc on s'est pas séparés en bon terme, on va dire. Il faut qu'on mette ça dans un coin de notre tête pour s'en servir, pour se booster, mais il faut pas que l'on déjoue par rapport à tout ça.
Dimitri Payet au micro RTL d'Hugo Hamelin. Rudy Garcia, lui, sait que son retour au Vélodrome ce soir risque d'être un peu mouvementé, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ce dimanche, seul mot d'ordre, concentration, jeu et enjeu.
Le match, c'est Marseille-Lyon, c'est pas Marseille-Rudy Garcia. Donc moi, je joue pas, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais je suis pas en condition physique. Je suis dans l'état d'esprit de l'entraîneur d'une équipe qui va beaucoup mieux et qui va jouer un match à l'extérieur contre une très bonne équipe. Et bien évidemment, on peut pas se contenter, quand on est Lyon, d'être dixième du championnat.
Le coach lyonnais Rudy Garcia avec Willy Maisonas pour RTL. Ce match est bien sûr à suivre sur notre antenne dans Soir de Ligue 1, Le Parisien aujourd'hui en France à partir de 20h. Le coup d'envoi du match, lui, est à 21h. Les résultats de ce samedi pour la 13e journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé. Ça n'a pas été si simple, hein. 2-1 à Brest hier après-midi. Lille fait du surplace en concédant un nul contre Metz, un partout. Autre résultat, Monaco remonte 1-0 face à Dijon. Strasbourg corrige Nîmes 4-1 et aucun but durant la rencontre Reims-Angers. Puisque nous en sommes au résultat, Stéphane, sachez que l'équipe de France féminine de football a surclassé la Serbie lors d'un match pour les qualifications pour l'Euro 2021. 6-0, s'il vous plaît. On n'est pas fortes les filles, ouais. Sacré déculotté. En voile, sachez que la Transat Jacques Vabre dans la catégorie des monocoques IMOCA a été remportée cette nuit par Yann Eliès et Charlie Dalin. Ils sont arrivés à Salvador de Bahia après 13 jours, 12 heures et 8 minutes de traversée, très exactement.
Voilà, pour les supporters lillois et messins, je rectifie un petit truc parce que je crois que vous avez dit un partout pour le score final hier entre Lille et Metz. Je pense qu'il y a eu 0-0.
Non, c'est 0 partout, j'ai dit.
Ah ouais, je crois que j'ai entendu un partout.
Ah, je crois que vous avez mal entendu.
Je crois que je vais vérifier tout ça.
Non, surtout pas.
Vous revenez à 9h en tous les cas et je pense que je vais vous en reparler tout à l'heure. Soyez là, Agnès Bonfillon, RTL.fr, toute l'actualité. Les chevaux.
À Auteuil.